Donc moi, je suis malheureusement très dépendant de la technologie. Là, ça a l'air d'être en bonne voie, mais on va voir ce que ça donne. Alors déjà, je vais faire une petite précaution, c'est que je ne vais pas parler au nom de l'ADEME, parce que sur ce genre de sujet, j'atteins très vite les limites du gouvernement dans la prise de position. Donc je suis là au nom des Amis de la Terre. Je remplace Hélène Gassin. Vous avez pu vous rendre compte que sur l'ancien programme, c'était Hélène Gassin qui est chargée de mission énergie à Greenpeace et qui devait traiter ces questions-là. Et donc moi, j'interviens en tant qu'administrateur des Amis de la Terre. Mais on est très très proche des positions de Greenpeace aux Amis de la Terre. Donc moi, je ne vous vois pas très réjouis là sur le fait qu'on vous annonce que c'est la fin de l'ère du pétrole. Et ce que je vais essayer de vous dire, c'est que c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Alors pourquoi c'est une très bonne nouvelle? Parce qu'il y a une autre question qui se pose, qui est la question du changement climatique, qui est une question qui, en fait, qui a été évoquée dès le début de la révolution industrielle. Dès qu'on a commencé à utiliser les combustibles fossiles, certains scientifiques se sont dit quelles conséquences les rejets de gaz carbonique principalement vont avoir sur la planète. Et dès 1850, il y avait déjà des scientifiques qui disaient on va avoir un problème majeur au niveau planétaire de réchauffement climatique si on base notre civilisation là-dessus. Ce qu'on a fait, donc le problème aujourd'hui est là. C'est mal barré. Bon, ben, je vais regarder les transparents et je vais les lire. Ce qui est embêtant, c'est que c'est des images. Donc, donc en fait, la première chose par laquelle je vais démarrer, c'est qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui. Hein, je vais pas vous faire un gros cours sur comment marche le phénomène de l'effet de serre. Les premiers impacts qu'on arrive à mesurer aujourd'hui, donc à la fin du XXe siècle, c'est que au dernier siècle, la température s'est réchauffée d'un peu plus d'un demi degré, hein, 0,6 degré, et que l'eau a commencé à monter, les eaux des océans ont commencé à monter associées à ce réchauffement. Donc, associé à cette... ça, c'est des mesures assez complexes qui sont faites par satellite, par thermomètre, etc. Associé à ça, par contre, on constate des impacts, et les gens qui constatent les impacts ne sont pas les mêmes que ceux qui mesurent la température. C'est en particulier tous les gens qui s'occupent de ce qu'on appelait la biosphère tout à l'heure, les botanistes, tous les gens qui s'occupent du cycle de la vie en général, constatent des premiers impacts. Donc en France, par exemple, à l'ONF, les forestiers ont constaté une augmentation de la vitesse de pousse des arbres. Les arbres poussent 10% plus vite qu'au début du siècle, associé à l'enrichissement gaz carbonique. Les gens qui s'occupent de la flore alpine se rendent compte que les fleurs ont tendance à grimper vers les sommets pour retrouver des climats qu'elles avaient au début du siècle. Et les personnes qui suivent les oiseaux se rendent compte que les parcours de migration changent et que les oiseaux vont moins loin parce qu'ils retrouvent des climats plus chauds, plus au nord. Donc ça, c'est des impacts qui, à la rigueur, si vous n'êtes pas passionné d'écologie scientifique, peuvent ne pas vous intéresser. Mais par contre, on va constater, associé à ça, on va constater les mêmes impacts sur l'agriculture, puisque l'agriculture dépend principalement du climat. Et donc là, pareil, on va voir des modifications de l'agriculture. Donc ça veut dire que les plantes fleurissent plus tôt en début de saison. Par exemple, les fruitiers vont avoir tendance à fleurir avant la fin des dernières gelées. Donc la conséquence directe, si vous avez une floraison un peu trop précoce, la récolte peut être compromise par le gel. On va trouver la même chose sur des problèmes de céréales. On l'a vu cet été avec la canicule, hein, c'est un exemple concret. Des céréales qui vont être en manque d'eau pendant l'été suite à une augmentation de la température et une baisse des précipitations. Donc on constate déjà aujourd'hui une baisse des précipitations en France en été et une augmentation en hiver. Ça, c'est des premiers impacts au niveau français. On va en constater au niveau mondial également. Et donc, à partir de ces impacts, on peut remonter à la question du changement climatique en regardant le parallèle entre gaz carbonique et température. On voit que sur 400 000 ans, qui est à peu près l'époque sur laquelle on arrive à remonter de façon précise grâce aux carottes glaciaires de l'Antarctique, on voit un parallèle quasi parfait entre température, gaz carbonique et également des émissions d'autres gaz à effet de serre qui sont le méthane et le protoxyde d'azote. Donc, il y a une corrélation qui est forte. Et ce qu'on constate avec le début de la révolution industrielle, c'est que nos émissions de gaz carbonique augmentent exponentiellement, exactement parallèlement à la consommation d'énergie qu'on a vu là, puisque tout est basé sur les combustibles fossiles. Voilà. Alors, ce qu'il faut que je dise aussi, c'est qu'on va parler quasiment exclusivement de gaz carbonique aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup d'énergie. Mais si vous vous intéressez à l'effet de serre en général, il faut se rappeler que le gaz carbonique, c'est un peu plus de la moitié de l'effet de serre. Il y a beaucoup d'autres gaz, et en particulier le méthane, qui est le deuxième plus important. Ensuite, on va retrouver les gaz fluorés, qui sont des gaz entièrement artificiels, dont vous avez forcément entendu parler sur l'histoire du trou de la couche d'ozone. Les gaz fluorés, enfin les CFC en particulier, sont les gaz qui ont troué la couche d'ozone. Ils participent également de façon très importante à l'effet de serre, puisque ça fait plus de 10% de l'effet de serre. Derrière ça, on a l'ozone. L'ozone qui est un gaz, une pollution au niveau du sol, est aussi un gaz à effet de serre au niveau des basses altitudes, et qui représente à peu près 8%. Et enfin, il y a le protoxyde d'azote qui est émis beaucoup par des activités industrielles ou des activités liées à l'utilisation d'engrais artificiels dans l'agriculture. Et donc, ces gaz sont plus ou moins suivis. Il faut voir que l'ozone et les CFC ne sont pas suivis par la convention qui gère les gaz à effet de serre. Donc, en général, on les traite pas dans les mesures de lutte contre l'effet de serre. Donc, on enlève en général un cinquième du problème dans la négociation climatique. Alors, si on regarde le cycle du carbone, c'est un des cycles fondamentaux du système biosphérique, et on se rend compte qu'il y a des flux gigantesques et que notre contribution à ces flux est finalement toute petite. Les océans échangent avec l'air environ 90 milliards de tonnes par an de carbone. La photosynthèse en absorbe plus de 110 milliards. Et les émissions liées aux échanges des sols, c'est plutôt de l'ordre de 50 milliards. Nos activités humaines, là-dedans, c'est de l'ordre de 6-7 milliards de tonnes de carbone. Donc c'est une toute petite proportion, mais sur ces 6-7 milliards, le cycle du carbone en réabsorbe environ la moitié, c'est-à-dire à peu près de 3 milliards qui sont réabsorbés à la fois par les océans, par le phytoplancton, et par les forêts et les sols en général, les prairies et les sols. Donc, notre contribution humaine au réchauffement climatique, c'est cette accumulation d'environ la moitié de notre pollution annuelle de 3 milliards de tonnes de carbone par an dans l'atmosphère. Alors, cette accumulation, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'utilisation de combustibles fossiles se développe toujours sur une pente qui est relativement exponentielle. Donc, pour l'instant, plus ça va, plus on réchauffe. Chaque année, on augmente l'utilisation de combustibles fossiles. Les émissions de gaz carbonique augmentent de gaz à effet de serre d'à peu près 1% par an en ce moment. Donc, il y a une croissance qui est vraiment soutenue. Et les prévisions du GIEC, qui est donc le groupe d'experts international qui fait consensus sur la question du climat et qui fait un rapport régulier pour les négociations des Nations Unies. Ce groupe représente à peu près 2000 à 3000 chercheurs dans le monde entier qui travaillent de façon collégiale, donc qui rédigent des rapports et les font relire à l'ensemble de la communauté scientifique. Ils ont fait des estimations qui sont, pour le 21e siècle, donc pour 2100, de 1,5 à 6 degrés de prévision de réchauffement. Donc je vous rappelle qu'au 20e siècle, on a constaté à peu près 0,6 degrés. Donc vous voyez l'amplitude de réchauffement par rapport au siècle précédent. Il y a un facteur en gros de 3 à 10 pour la vitesse de réchauffement pour le siècle prochain. Et associé à ce réchauffement, il y a une montée des eaux qui serait de 10 à 90 cm. Donc il y a une fourchette énorme dans les chiffres que je vous donne pour deux raisons. La première raison, c'est que les modèles climatiques ne sont pas tous calés. Ils ont énormément de difficultés actuellement à prendre en compte tous les phénomènes biologiques qui ont un effet rétroactif très important dans le changement climatique. Les forêts, les océans, etc., peuvent à la fois absorber du carbone plus rapidement si ça se réchauffe, mais aussi en relarguer plus rapidement s'il y a des phénomènes inverses qui se produisent. Donc on ne sait pas du tout dans quel sens va évoluer le climat. On sait qu'il va se réchauffer, mais on ne sait pas à quelle vitesse il va se réchauffer. On a, sur les 400 000 dernières années, on a des exemples de réchauffement ou de refroidissement extrêmement brutaux qui vont à plusieurs degrés par siècle. Donc on sait qu'il y a des moments où le climat bascule. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est que le réchauffement sera très probablement progressif. En ce moment, il est à peu près progressif, que pendant un temps. Et à un moment, il va y avoir un basculement qu'on ne pourra pas prévoir. Donc ça joue dans l'incertitude des fourchettes. Et l'autre chose qui joue énormément, c'est que pour 2100, les scientifiques qui font leurs calculs sont obligés de prévoir les modèles de développement de l'humanité sur 100 ans. Et là, il y a une fourchette énorme parce qu'on a... des scénarios très différents sur comment on produira notre énergie d'ici 100 ans, sachant qu'il va y avoir un problème de combustible fossile au passage. Par contre, on peut déjà commencer à regarder les impacts qu'aurait ce réchauffement d'un degré 5 à 6 degrés dans le siècle en cours. Donc, ils sont multiples. On peut commencer par les impacts sur le cycle de l'eau. qui va être un des cycles bouleversés par le réchauffement. On prévoit des bouleversements dans la périodicité et l'intensité des pluies. Il va y avoir des changements dans les précipitations, on les constate déjà un petit peu sur le globe. Il va y avoir probablement, là c'est des scénarios qui sont encore en train d'être calés, mais très probablement une diminution des pluies sur les tropiques et une augmentation au niveau de l'équateur et des zones tempérées assez élevées en latitude. Donc ça veut dire une aggravation en fait des déficits de pluie dans les régions qui en manquent et d'excès de pluie probablement dans des régions déjà assez arrosées. Donc ça, c'est un impact direct sur l'agriculture, évidemment. Il va y avoir un deuxième impact concernant l'eau, qui est que la montée de l'eau de mer risque de saliniser des nappes d'eau douce qui sont en côte, sur les zones côtières, et puis que l'augmentation de la température de l'eau avec le réchauffement climatique général risque de faciliter le développement de bactéries et de microbes qui sont déjà responsables d'une des premières causes de mortalité sur la planète. Il y a une dégradation de la potabilité de l'eau, qui est probable avec le réchauffement climatique. Donc l'impact sur les forêts, je l'ai un petit peu mentionné tout à l'heure, on constate actuellement un accroissement de la pousse des forêts, mais on ne peut pas trop compter dessus, parce qu'on sait qu'à partir d'un certain moment, ce n'est plus le gaz carbonique qui va manquer aux arbres, c'est l'eau. On le verra probablement d'ici un ou deux ans, on pourra mesurer l'impact de la canicule sur les arbres, mais on sait qu'à partir d'un certain moment, l'arbre étant dopé par le gaz carbonique demande plus d'eau, il a un problème de sécheresse en été et ça provoque une mortalité des forêts. Et il y a des scénarios assez catastrophes qui disent que, à partir de la deuxième moitié du siècle, le manque d'eau deviendrait tel que les forêts commenceraient à mourir massivement et qu'on aurait des forêts du type bassin amazonien où la mortalité élevée des arbres ferait un relargage énorme de carbone à la fois par gaz carbonique et par méthane si les arbres se mettent à pourrir. Donc les arbres jouent bien un rôle de puits dans la première moitié du siècle. Il y a une possibilité qui est relativement consensuelle que ça devienne plutôt des sources dans la deuxième moitié. Ce qui fait qu'on va freiner le réchauffement à la première moitié en se disant ça se réchauffe moins vite que prévu, c'est une bonne nouvelle, mais on risque de voir une accélération brutale dans la seconde moitié. Donc sur l'agriculture, il peut y avoir des conséquences positives sur l'agriculture des pays qui sont assez élevés en latitude. Si vous prenez des pays comme la Russie, les États-Unis, le Canada et puis quelques pays du Sud, du sud très au sud, il va y avoir des effets positifs avec le réchauffement de possibilité de cultiver plus longtemps des terres agricoles. Par contre, sur les zones déjà chaudes, comme les zones tropicales, on va avoir un problème qui sera que les plantes actuellement sont adaptées à un climat qui est un des plus chauds de la Terre et ne connaissent pas de climat plus chaud que ça. C'est-à-dire que dans les zones tropicales, vous avez des variétés qui sont à la limite de leur capacité à supporter la température. Elles supportent des températures de 35, 40, 45 degrés. Mais si vous décalez de quelques degrés vers le haut, les plantes sont en état de stress important et donc la productivité de ces zones-là va diminuer. Donc là, encore une fois, il risque d'y avoir, les scénarios du GIEC prévoient un accroissement de la production dans les zones tempérées et une diminution de la production agricole dans les zones tropicales. Donc encore une fois, un accroissement des inégalités mondiales. Et puis, avec ça, il y a tout l'impact sur la biodiversité, qu'on a beaucoup de mal à chiffrer. On sait que la biodiversité entre dans une zone d'instabilité profonde quand le réchauffement est au-delà de 2 degrés par siècle. Si vous dépassez 2 degrés par siècle, vous avez la plupart des espèces animales et végétales qui ont du mal à s'adapter, soit par mutation et sélection naturelle, soit par déplacement vers des écosystèmes qui correspondent au climat auquel ils étaient habitués avant. Par exemple, un réchauffement d'un degré, en France, on estime que c'est un décalage vers le nord des écosystèmes de 100 à 150 km. Ce qui veut dire que vos chênes verts qui sont adaptés au climat méditerranéen, il va falloir qu'ils se décalent de 100 à 150 km plus haut pour retrouver ce même climat, et donc toute la forêt française va avoir tendance à grimper. Alors autant c'est facile pour un cerf de se décaler de 150 km, autant pour un chêne c'est beaucoup plus dur. Le chêne va attendre qu'un oiseau ait la bonne idée de transporter son gland, et vous voyez qu'il faut une génération de chênes, donc quelques siècles pour qu'il arrive à le faire. Et c'est le cas pour beaucoup d'espèces. Et au problème du changement climatique qui se pose là, se posent tous les autres problèmes généraux de la biodiversité, en particulier dans les pays comme le nôtre, le cloisonnement des écosystèmes par les autoroutes, par les systèmes de voies d'eau, etc. C'est-à-dire que votre escargot va avoir du mal à franchir les autoroutes. Donc, il y aura des problèmes de cloisonnement des écosystèmes aussi. Alors, une fois qu'on a fait tous ces constats-là, on se demande quel scénario il faudrait suivre. Et les scénarios les plus optimistes du GIEC sont des scénarios donc pour arriver à 1,5 degré de réchauffement. Il faut faire des efforts qui sont quasiment de l'ordre de la théorie, tellement ça demande un changement de société. Enfin, les scénarios les plus optimistes qui soient chiffrés par le GIEC sont des scénarios où on se retrouverait à environ 450 parties par million de gaz carbonique. Actuellement, on est à 360, et le taux naturel, c'est 280. Et le scénario qu'ils considèrent comme environnemental, c'est actuellement un doublement de la concentration naturelle de gaz carbonique dans l'air. C'est-à-dire que des scénarios qui prévoient de redescendre à la concentration naturelle de gaz carbonique, moi, ça fait 3 ans que je bosse sur le sujet, j'en ai jamais vu. C'est-à-dire que si c'est possible un jour, ça, c'est à l'échelle du millénaire plus que du siècle, d'arriver à redescendre au taux naturel de concentration de gaz carbonique. Parce qu'il y a une telle inertie dans le système que même si on arrête tout aujourd'hui, ça continuera à monter pendant des siècles, la concentration et la température. Donc, pour arriver à rester en dessous de la fourchette des 2 degrés qu'on peut voir comme une zone critique au niveau de la biodiversité, donc de l'agriculture, etc., il faut rester en dessous de ces 450 parties par million de gaz carbonique, ce qui veut dire une inversion très brutale des courbes de température. Alors, parallèlement à ça, il y a la question des combustibles fossiles qui se pose, puisque les combustibles fossiles, gaz, charbon et pétrole, ça représente entre 3/4 et 4/5 de la contribution au réchauffement climatique. Donc c'est majeur dedans. Et là, j'ai malheureusement pas le transparent, mais ce qu'on verrait si je pouvais vous projeter ça, c'est que les réserves qui sont prouvées actuellement en pétrole, en gaz et en charbon sont très largement supérieures à tout ce qu'on a brûlé depuis le début de la révolution industrielle, c'est à peu près un facteur 2, et que en plus dans les réserves non conventionnelles, alors là, on a des quantités fantastiques qui restent à exploiter potentiellement. Et ce qui reste surtout, c'est du charbon. Si vous regardez l'histoire de la révolution industrielle, jusqu'au milieu du XXe siècle, on était basé sur le charbon. Après, on a développé massivement le pétrole. Et maintenant, on passe au gaz. Pour une raison qui est simple, c'est que l'efficacité du combustible, à chaque fois, s'améliore. Le gaz a un meilleur rendement énergétique que le pétrole, quand vous le brûlez. Et accessoirement, plus le rendement énergétique est fort, plus faible est la pollution par gaz carbonique. Donc le gaz est beaucoup plus propre que le charbon comme moyen de production d'électricité, par exemple. Le problème, c'est qu'on a peu de gaz, peu de pétrole et énormément de charbon. Donc il est à peu près sûr que quand les réserves diminueront en gaz et en pétrole, on se tournera vers le charbon si d'ici là, on n'a pas suffisamment pris conscience du changement climatique pour se tourner vers d'autres combustibles. Et dans les scénarios dont je parlais tout à l'heure, qui correspondent à un réchauffement de 2 degrés, il faudrait, en gros, ne pas brûler plus que le pétrole et le gaz qu'on a, et même pas la moitié du charbon. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'on compte trop sur ces combustibles fossiles pour se développer, sinon on explose tous les scénarios de réchauffement climatique. Alors le problème, c'est qu'actuellement, les experts mondiaux qui suivent la production d'énergie arrive encore à créer des scénarios où la consommation d'énergie augmente linéairement, selon une belle pente quand même, en général assez verticale, jusqu'à 2050, voire 2100. C'est-à-dire qu'à un moment, on se demande s'ils ont même pensé qu'il pouvait ne plus y avoir de combustibles fossiles. Et vous avez des scénarios du Conseil mondial de l'énergie qui prévoient que, d'ici, là j'ai le transparent sous mes yeux, d'ici 2050, donc on aura besoin de plus de 2 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui. Et donc pour faire ça, on doublera la consommation de charbon, de gaz et de pétrole. Voilà. Alors, visiblement, ils n'ont pas entendu parler de changement climatique, ou alors ils se sont dit que c'était pas assez mobilisateur pour qu'on se tourne vers un autre mode de développement. Et quand ils font des scénarios environnementaux, parce que maintenant, en général, avec un scénario tendanciel, c'est-à-dire on laisse tout dériver vers le haut, on vous crée un scénario environnemental. Le scénario environnemental du Conseil mondial de l'énergie, c'est un scénario qui permet tout juste de stabiliser la consommation, de stabiliser la consommation de carburants fossiles et nucléaires, c'est-à-dire qu'ils font recours au nucléaire pour compenser un petit peu la baisse de combustibles fossiles, et puis qui ensuite rajoute fortement des renouvelables. Donc, il prévoit quand même que la consommation d'énergie montera et qu'on fera recours plus à des renouvelables qu'aux autres sources. Alors, sur le nucléaire, il y a une autre chose qu'il faut dire, au-delà de tous les risques du nucléaire, mais il y a quand même des risques pour les autres énergies. Le charbon, ça fait quand même un nombre de morts annuels qui est fantastique. Au-delà des risques du nucléaire, il y a aussi des réserves d'uranium qui sont limitées. Et on prévoit que les réserves d'uranium, les chiffres que j'ai vus, c'est de l'ordre de 60 ans. Donc de toute façon, si les beaux projets de fusion nucléaire n'arrivent pas à terme, à un moment, il n'y aura plus de combustible pour le nucléaire non plus. Donc c'est aussi une énergie fossile dans un sens. Et le problème de ces scénarios qui permettent tout juste de stabiliser la consommation, c'est qu'ils ne répondent pas du tout à l'objectif de réchauffement, enfin de limiter le réchauffement, qui nécessite qu'on divise à peu près la consommation par deux. Donc les scénarios les plus optimistes voient une stabilisation de la consommation, et les experts du changement climatique disent qu'il faut diviser au moins par deux tout de suite. Là, il y a un gros problème. Si vous regardez en France, c'est la même chose. Les experts du commissariat général au plan ont fait trois scénarios. Un scénario qui laisse filer la pente, qui s'appelle tendanciel aussi, où on continue tout comme avant et la consommation d'énergie suit la croissance, avec une croissance forte. Ensuite, il y a un scénario intermédiaire. Et en bas, il y a le scénario environnemental qui a été créé pour respecter Kyoto. En gros, ils ont dit qu'il faut qu'on le cale pour respecter Kyoto. Mais maintenant qu'on sait que Kyoto, c'est vraiment un tout petit premier pas, on n'a pas encore de scénarios sérieux qui nous disent comment on va diminuer la consommation d'énergie. Alors là, on va arriver sur quand même, je vais me recaler sur le thème du colloque qui est décroissance, donc vous voyez déjà qu'il faut qu'on décroisse nos émissions de gaz carbonique. Alors, ça, c'est évident et ça a été reconnu très fortement. Le Premier ministre a quand même fait un discours sur le changement climatique qui soutient fortement la décroissance puisqu'il nous a dit, Monsieur Raffarin a dit qu'il fallait qu'on divise par 4 d'ici 2050 nos émissions de gaz à effet de serre. Donc le gouvernement officiellement s'est engagé sur la décroissance de l'effet de serre. C'est un scoop et c'est une première. Alors pour l'instant on n'a pas encore les scénarios qui vont aller avec. Pour l'instant ça reste de la communication, comme sur le développement durable, enfin voilà. Par contre, il y a une question qui se pose tout de suite, c'est décroissance des émissions de gaz à effet de serre, ok, mais qu'est-ce que ça implique sur la croissance ? Est-ce qu'il y a un lien entre la croissance économique et entre les émissions de gaz à effet de serre ? Alors il y a une relation évidente entre la croissance économique, entre le PIB et la consommation d'énergie derrière. C'est-à-dire que si vous placez sur un même diagramme la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Europe, vous allez avoir la Chine et l'Inde en bas, et puis en bas, c'est-à-dire avec faible PIB, faibles émissions, et puis à l'autre bout, vous allez avoir les États-Unis, l'Europe, avec fort PIB et fortes émissions. Mais si vous comparez l'Europe et les États-Unis, pour à peu près la même production de PIB par habitant, les Américains ont besoin de deux fois plus d'énergie que les Européens. Donc là, il y a une première remarque qui est que pour un même niveau de vie mesuré par le PIB, on peut avoir une consommation d'énergie qui va au moins du simple au double. Donc là, il y a une première chose à se dire sur la différence entre consommation d'énergie et niveau de vie. Cette même consommation d'énergie, si on regarde l'évolution du PIB depuis avant les premiers chocs pétroliers jusqu'à aujourd'hui, et puis la consommation d'énergie associée, on voit qu'à chaque choc pétrolier, on a un décrochage des courbes. C'est-à-dire qu'en temps normal, plus vous augmentez le PIB, plus la croissance est forte, plus la consommation d'énergie suit, les courbes sont quasiment confondues. Et avec les deux chocs pétroliers, on voit un léger ralentissement de la croissance, mais la croissance reste quasiment positive, enfin plus ou moins au niveau mondial en tout cas, et par contre la consommation d'énergie se met à descendre. Donc on voit que dans certaines périodes où l'énergie était chère et où il y avait une contrainte forte sur l'énergie, on arrivait à rester dans des scénarios de croissance tout en décrochant la consommation d'énergie. Alors, ça pose quand même une question qui est qu'est-ce que mesure le PIB si on fait ça ? Parce que le PIB mesure tout et n'importe quoi, on additionne tout ce qui est valeur, enfin chiffre d'affaires, et heureusement on a d'autres indices maintenant pour mesurer des indicateurs de bien-être humain ou de développement humain, qui prennent pas juste en compte votre investissement dans des autoroutes ou dans de l'armement, etc. Donc il faudra aussi réfléchir sur cette question-là, qui est de dire qu'est-ce qu'on mesure et à quoi on se rapporte. Quoi. Est-ce que notre but, c'est d'augmenter le PIB ou est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte ? Voilà, faut que j'accélère. Donc, pour suivre un scénario de réchauffement limité à 2 degrés maximum, il faut que les pays de l'OCDE réduisent immédiatement par 4 leur consommation d'énergie. Et d'ici 2100, c'est plutôt un facteur 10 qu'il va falloir qu'on arrive à atteindre. Enfin, 10, ça dépend, c'est la moyenne de l'OCDE. Ça veut dire qu'actuellement, chacun de nous dans la salle, on est à peu près à une moyenne de 8 tonnes de gaz à effet de serre par an en France. Il faut que d'ici 2050, on soit passé à 2 tonnes. 2 tonnes actuellement, c'est moins que ce qu'émettent la plupart des gens, peut-être pas de cette salle, mais en tout cas des Français, en prenant leur voiture. Rien qu'en prenant votre voiture, vous avez déjà fait votre quota annuel durable. Et après, il vous reste tous les autres besoins à satisfaire, c'est-à-dire que vous vous logez pas, vous vous nourrissez pas, vous faites rien d'autre que vous déplacer dans votre voiture. Ce qui est quand même un peu embêtant. Donc, est-ce que cette histoire de convergence des émissions, hein, le diagramme général, si vous voulez, qui est reconnu comme soutenable, c'est un diagramme en forme de cloche, comme ça, qui s'étale plus doucement sur la fin, sur lequel la consommation, enfin la production de gaz à effet de serre des pays de l'OCDE se stabilise tout de suite et commence directement à descendre, sur lequel la stabilisation, les émissions des grands pays comme la Chine et l'Inde doivent se stabiliser pendant, on va dire, 20-30 ans pour descendre ensuite, et sur lequel la consommation la production de gaz à effet de serre du reste du monde va pouvoir augmenter, parce qu'on sait qu'il va y avoir un développement, parce qu'il y a un développement souhaitable de certains pays, quand on parlait tout à l'heure de la civilisation du pétrole, il faut voir que cette civilisation, elle concerne, à mon avis, pas la moitié de l'humanité. Hein, si vous regardez les pays africains, quand vous voyez la quantité de pétrole qu'ils utilisent par an, pour certains pays, ils utilisent quoi? Ils utilisent quelques litres de lampes à pétrole et basta, quoi. Hein. Donc, le problème de la pénurie d'énergie, finalement, ne concerne pas toute la planète, contrairement au problème du changement climatique, qui touchera autant, voire plus, ceux qui n'utilisent actuellement pas de combustibles fossiles que nous. Alors, comment on peut arriver à suivre cette courbe qui décroît très très brutalement? Il y a plusieurs choses. On a régulièrement des tas de discours sur les énergies renouvelables, donc c'est évident qu'il va falloir passer par un développement des énergies renouvelables assez important, même très important. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est l'efficacité énergétique de nos systèmes de production, c'est-à-dire que on roule actuellement avec des véhicules qui consomment 6 litres au 100, on a dans les tiroirs de tous les constructeurs automobiles des véhicules qui consomment moins de 3 litres, qui ne sont pas vendus parce qu'il n'y a pas de demande, soi-disant. Et on a aussi des véhicules qui consomment plus de 15 litres. Il y a Arnold Schwarzenegger qui a fait une super déclaration environnementale la semaine dernière, en expliquant que, donc comme il est en campagne électorale, son manager lui a dit qu'il faudrait faire un geste en direction des électeurs verts, écologiste, et donc pour ça il faut que tu annonces quelque chose. Donc il a pris un engagement, il a dit, vous voyez, il a le plus gros 4x4 du monde, Arnold Schwarzenegger, il a un Hummer, c'est un truc qui doit peser 5 tonnes d'acier pour déplacer, bon il a beaucoup de muscles mais quand même. Donc il a dit, je vais faire un geste environnemental, et il a décidé de passer son Hummer à l'hydrogène. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, il aurait pu prendre un vélo à pétrole, ça aurait été finalement beaucoup mieux, mais il n'y avait pas. Et donc, il pense que ce changement de combustible va suffire à sauver la planète, d'une certaine façon. Donc ça, c'est l'écueil des renouvelables. Si vous consommez sur des machines absolument pas performantes et que vous utilisez des renouvelables pour ça, c'est la catastrophe assurée, quoi. C'est la catastrophe assurée. Donc, il y a un problème d'efficacité énergétique. C'est pas la peine d'utiliser des systèmes pourris basés sur les renouvelables. Et puis, enfin, il y a un troisième problème. Les deux premières catégories, la renouvelable et efficacité énergétique, elles sont incluses dans tous les scénarios actuellement. Alors, plus ou moins, de façon plus ou moins ambitieuse, selon que le coût des renouvelables arrive à peu près à égalité ou pas avec le coût des combustibles fossiles. Ça dépend comment on compte les coûts. Mais par contre, il manque pratiquement toujours dans nos scénarios OCDE, enfin monde capitaliste, un troisième paramètre qui est la sobriété énergétique. Et c'est ce paramètre-là qui permettra, avec les deux autres, d'arriver à une réduction forte des consommations. Hein. Et la sobriété énergétique, c'est quoi? C'est dire, j'ai un véhicule qui roule 3 litres, qui est éventuellement basé sur des énergies renouvelables, je ne sais pas moi, et en plus, ce véhicule, je ne l'utilise pas 15 000 km par an, et je l'utilise pas tout seul. C'est le côté où, là, on a besoin de la limitation volontaire de la population. Hein, vous aurez pas des climatiseurs bio-renouvelables dans chaque maison. Ça, c'est un scénario... C'est très probable que ce scénario se produise, mais il nous mènera autant vers la catastrophe que les autres. Hein, donc, la troisième partie qui nous manque actuellement, c'est la sobriété. Et il y a des personnes d'un réseau qui s'appelle le réseau des Gawatts, qui planche actuellement sur des scénarios justement de division par 4 des émissions de la France. Ils mettent à peu près un tiers sur les 3 facteurs, et actuellement ils arrivent à 35% de réduction au lieu de 50%. Tout ça pour dire que, et ils remettent pas en cause, ils sont dans une hypothèse décroissance si on veut, mais ils sont dans une hypothèse où le système économique n'a pas changé. Donc après, il y a une question à voir sur quel système économique on veut. Mais ça, c'est un scénario, donc un scénario de réduction d'un tiers de nos émissions, voire de la moitié, est tout à fait envisageable sans changer le système, enfin, en changeant quand même pas mal de choses dans le système. Mais en restant dans une logique traditionnelle classique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors après le débat sur la décroissance, on peut s'ouvrir. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Et voilà.